à l'étranger, on a cette image très forte de pionniers en protonthérapie ou en médecine nucléaire qui font que les gens du secteur connaissent IBA, respectent IBA.
Dans Let's Talk, la FEB vous fixe rendez-vous avec une figure clé du monde entrepreneurial en Belgique. Qui se cache derrière la femme ou l'homme chef d'entreprise ? Quel est le moteur qui l'a ou le pousse à faire tourner son activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Est-ce la passion des chiffres, les gènes ou bien l'ambition ? Let's Talk vous propose de découvrir une personnalité du monde du business, devant et derrière les coulisses. À écouter chaque dernier jeudi du mois.
L'invité de notre podcast est Olivier Legrain, à la tête d'IBA. IBA, trois lettres, pour Ion Beam Applications. C'est une société spécialisée dans le matériel de diagnostic et de traitement du cancer par protonthérapie. La carrière d'Olivier Legrain chez IBA commence en 1996, après avoir occupé divers postes dans des filiales de l'entreprise en Suède, en France, en Allemagne et aux États-Unis. Il en devient responsable de la stratégie en 2011, puis CEO en 2012. La protonthérapie est sans doute l'activité d'IBA la plus connue. Il s'agit d'une méthode moins invasive du traitement des tumeurs cancéreuses, présentant moins d'effets secondaires que la radiothérapie conventionnelle. Mais cette activité, si elle représente la moitié du chiffre d'affaires, ne fait l'objet que d'une des quatre divisions d'IBA, aux côtés de la médecine nucléaire, la dosimétrie et, dernière venue, la stérilisation. Toutes reposent sur la technologie de l'accélération de particules. IBA, qui est coté à la Bourse de Bruxelles depuis 1998, a pu maintenir le cap malgré un contexte particulièrement difficile. Cela dit, vous l'entendrez, il est peu question de résultats financiers ou de dividendes dans les propos d'Olivier Legrain. Le focus est clairement mis sur le long terme, l'engagement et l'innovation. Grâce à l'innovation, nous dit-il, on est dans un cercle vertueux qui nous permet d'éviter la bagarre sur les prix. C'est parti. Olivier Legrain, bonjour.
Bonjour.
Votre cœur historique de métier, c'est la protonthérapie. Comment expliquez-vous la croissance de cette activité, ou à tout le moins sa pérennité, sur maintenant une période d'à peu près 35 ans ?
Le cœur de métier d'IBA, c'est plutôt les accélérateurs de particules. La société a plutôt commencé fin des années 80 autour d'une autre application qui était la médecine nucléaire. Mais c'est vrai que très vite, en fait, est arrivée la protonthérapie qui a décollé début des années 90. Enfin, premier système vendu début des années 90, premier patient traité début des années 2000. Et puis, effectivement, comme la technologie est très prometteuse au niveau du traitement des cancers, principalement d'ailleurs sur les cas pédiatriques, mais aussi beaucoup d'autres cancers comme le cerveau, le poumon, le sein gauche. On a vu un intérêt très important, très tôt, de pas mal d'hôpitaux universitaires, principalement d'abord aux États-Unis, au Japon, suivi ensuite par l'Europe. Et donc voilà, la modalité, même si elle reste de niche, présente un intérêt très important d'un point de vue médical, en oncologie. Et donc, il y a une demande du marché qui reste importante. Et c'est sur cette base-là qu'on s'est développé. IBA a été un pionnier dans le domaine de la protonthérapie. Nous avons été les premiers à industrialiser, en fait, un instrument de recherche. Puis d'autres nous ont rejoints dans le marché, comme Hitachi ou Variant, qui entre-temps est devenu Siemens. Mais donc, ça prouve que la modalité en oncologie a un grand potentiel. Elle sauve beaucoup de patients. Nous avons fêté l'année dernière chez IBA 100 000 patients traités avec la protonthérapie. On en est très fiers. Et donc voilà, c'est comme ça que la société s'est développée, je dirais début des années 2000, autour de la protonthérapie, qui aujourd'hui effectivement représente plus de la moitié de notre chiffre d'affaires.
Donc c'est vraiment le début des années 90 qui est le moment clé, le moment où une véritable dynamique s'est installée.
Je dirais qu'il y a eu deux vagues. Il y a vraiment eu une vague d'intérêt très important des grands hôpitaux universitaires, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait terminée, puisque aux États-Unis, beaucoup de ces hôpitaux universitaires ont des centres de protonthérapie. C'est moins le cas dans le reste du monde. Donc on voit que cette vague continue, mais je dirais qu'effectivement, la première vague d'adoption a été début des années 2000, plutôt autour des grands hôpitaux universitaires. Et puis après, c'est les grands centres d'oncologie qui veulent être des centres multidisciplinaires, donc offrir un peu à leurs patients toutes les possibilités de traitement des cancers, qui se sont équipés. Et ensuite, et pour moi, ça c'est un autre point d'inflexion assez important pour IBA, c'est les plus petits hôpitaux. Grâce en fait à l'évolution de la technologie et à l'innovation, qui a permis en fait de réduire le coût ou de donner plus d'accessibilité à des plus petits hôpitaux. Et je dirais, c'est la vague dans laquelle on est aujourd'hui, qui a commencé dans les années 2015. Et on voit aujourd'hui, en fait, que la demande pour la protonthérapie est principalement autour de ce qu'on appelle les monosalles compactes, qui permettent à peu près n'importe quel hôpital aujourd'hui, enfin qui est suffisamment équipé et assez présent en radiothérapie, de pouvoir avoir accès à la protonthérapie.
On reviendra sur cet aspect de l'accessibilité à la thérapie. J'aurais aussi aimé savoir s'il y avait d'autres divisions importantes d'IBA et comment elles évoluaient par rapport à cet axe principal.
Alors IBA aujourd'hui, effectivement, c'est trois autres divisions qui sont d'un point de vue stratégique aussi importante que la protonthérapie. Je l'ai dit, la protonthérapie, c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires, mais l'autre moitié est effectivement constituée de trois autres divisions très dynamiques, qui toutes les trois offrent des vraies opportunités stratégiques pour IBA et dans lesquelles nous avons un rôle de leader. La première, qui est un peu liée à la protonthérapie, c'est ce qu'on appelle la dosimétrie, ce sont des instruments d'assurance qualité pour la radiothérapie. C'est utilisé pour vérifier les traitements, en fait, en protonthérapie, mais aussi en radiothérapie conventionnelle. C'est une division qui a été intégrée dans IBA par acquisition début des années 2000 et qui est plutôt basée en Allemagne. Là, on a un avantage technologique assez important, c'est de plus en plus de software. La troisième division chez IBA, c'est tout ce qui est médecine nucléaire, qui est en fait la division historique, et donc qui permet, en collaboration avec des sociétés pharmaceutiques ou radiopharmaceutiques, de produire des médicaments injectables qui permettent de faire des diagnostics. Et demain, probablement aussi de la thérapie, c'est ce qu'on appelle le théranostic. Et IBA, là, historiquement, a développé des plus petits accélérateurs de particules qu'on met à disposition, qu'on vend à ces chaînes de production qui permettent en fait de faire des diagnostics de cancer, des diagnostics neurologiques, des diagnostics cardiaques. Et comme je le disais, demain, sont prometteurs par rapport à ce qu'on appelle le théranostic, à la thérapie du cancer aussi. Et finalement, en fait, on a, avec le temps, développé un autre type d'accélérateur de particules, qui est un accélérateur à électrons, qui lui, en fait, permet de stériliser les medical devices, les gants, les seringues, toutes sortes de ces équipements qui sont utilisés. Et là aussi, c'est très prometteur, parce que si la technologie, donc c'est ce qu'on appelle l'IBIM ou le rayon X pour la stérilisation, a été un peu très niche dans le marché de la stérilisation, en fait, les alternatives sont très polluantes, comme l'oxyde d'éthylène ou l'utilisation des radiations par faisceau de gamma. Et on voit que les grands opérateurs et les grands pharma achètent de plus en plus de ces équipements IBIM X-ray, dans lesquels IBA a une solution très compétitive. Donc on est très positif sur l'avenir de ces trois divisions, et en particulier de la division qu'on appelle industrielle chez IBA.
Comment vous situez-vous par rapport à d'autres acteurs en protonthérapie sur le marché mondial? Qu'est-ce qui vous différencie? La technologie, le prix, le modèle de business?
Alors nos concurrents, en fait, puisque c'est ça, les autres acteurs sont des géants. On parlait d'Hitachi et de Variant, qui entre-temps a été racheté par Siemens. Donc on fait face à deux géants. Et je dirais que notre raison d'être dans ce marché, c'est l'innovation. Aujourd'hui, on est leader de ce marché, on a plus de 50% de part de marché, et on y arrive grâce à l'innovation. Je le disais tout à l'heure, IBA était un pionnier en industrialisant en fait ces systèmes, qui étaient des systèmes de recherche. Et puis, on a eu une deuxième vague d'innovation avec ce système compact. Et là, c'est toute la force d'IBA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à notre maîtrise, principalement de l'accélérateur, mais aussi de tous les paramètres autour de ce qui est nécessaire pour faire de la protonthérapie de qualité, on arrive à innover plus vite et plus fort que nos concurrents. Donc aujourd'hui, on a deux systèmes, un système qui est compact et qui est de loin beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compact que celui de nos compétiteurs. Et ce que ça donne en fait à nos clients, c'est une simplification de l'implémentation de la protonthérapie, mais aussi un total cost of ownership qui est quand même significativement plus bas, puisqu'IB1 a un avantage coût énorme dans le monde du compact. Et tout est de l'avant. Donc, quand vous avez un système plus petit, vous avez besoin d'un bâtiment plus petit, etc., etc. Donc, le total cost of ownership n'est pas uniquement sur l'équipement, mais sur tout le projet, en fait. Et la vitesse d'exécution, je dirais, est le deuxième paramètre sur lequel on se différencie. On a deux fois plus de systèmes installés que notre concurrent le plus proche, qui est Siemens aujourd'hui. Et donc, on a cette expertise de pouvoir exécuter ces projets beaucoup plus vite et systématiquement dans les budgets. Et puis, grâce à cette base installée, en fait, elle est intégralement connectée à de l'intelligence artificielle. On collecte aujourd'hui toutes les données sur nos systèmes qui tournent. Et grâce à ça, nous avançons plus vite que nos concurrents sur ce qu'on appelle aujourd'hui la maintenance prédictive, qui nous permet, en fait, d'anticiper les pannes et donc d'offrir à nos clients une fiabilité supérieure à celle de nos compétiteurs. Donc, on est dans ce cercle vertueux, je dirais, qui nous permet, grâce à l'innovation et à l'expérience, de faire valoir, en fait, un différenciant qui a de la valeur pour le client et donc éviter la bagarre sur les prix.
Olivier Legrain, on ne peut pas ne pas évoquer la crise de Covid. Quel a été son impact sur votre activité et est-ce que vous êtes serein pour les prochaines années?
Alors, serein pour les prochaines années, je reste attentif. J'aime bien la devise « rester lucide, combatif et positif ». Donc, disons, pour les prochaines années, je suis lucide, combatif et positif. Je pense que ça va rester à tout le moins incertain. On le voit maintenant avec le nouveau variant, etc. Et donc, on est reparti pour des lockdowns ou en tout cas du télétravail. Pour IBA, je dirais qu'on a eu quelque part la chance d'être très présent en Chine. Et donc, on a vraiment vu cette vague arriver dès décembre 2019, en fait. Et donc, quand c'est arrivé en Belgique, en fin février, début mars, eh bien, on avait déjà un peu toutes les procédures qui étaient prêtes, puisqu'on les avait implémentées en Chine. On a d'ailleurs été systématiquement une ou deux semaines devant les décisions du gouvernement, parce qu'on l'avait vécu en Chine. Et donc, d'un autre côté, IBA était prêt pour le télétravail, on était déjà équipés, etc. Donc, on a pu assez facilement, je dirais, passer en télétravail très tôt. On a pu aussi, et c'est une grande fierté chez nous, déterminer des priorités qu'on a su tenir à travers toute la crise et qu'on continue à tenir, à savoir la sécurité de nos employés. On en a 800 en Belgique, mais on en a aussi à peu près 800 dans le reste du monde, et donc qui sont sur des sites, dans des hôpitaux, etc. Donc on a très vite mis en place tout ce qu'il fallait pour que nos employés soient en sécurité. Le deuxième objectif qu'on s'était fixé, c'est de garder, de faire tout pour que nos sites puissent continuer à tourner. Bien sûr, il y avait le Covid, mais il y a aussi les patients atteints du cancer, où souvent, c'est une course contre la montre aussi. Donc, il était important de continuer à opérer et puis de faire tout pour que la société puisse rebondir derrière, c'est-à-dire continuer à investir en recherche et développement, etc. etc. Et je dirais que globalement, on s'en est très bien sorti, puisque même si on n'est pas encore tout à fait sorti de la crise, IBA s'est plutôt renforcé dans cette crise. On a eu peu de cas Covid chez IBA. On a eu finalement une très bonne fiabilité dans notre base installée et on a continué à innover. Alors, ça reste difficile puisqu'on ne peut pas voyager. IBA a quand même un business model qui est assez, je dirais, basé sur le voyage, puisqu'on opère à peu près partout dans le monde. On a une série d'experts centralisés à Louvain-la-Neuve qui doit voyager pour installer les sites ou faire des maintenances difficiles. Mais là aussi, je dirais, quelque part, le Covid nous a aidés à progresser, puisque on était prêts depuis un certain temps pour faire de la maintenance à distance. mais il y avait une certaine fébrilité ou inquiétude d'y aller, à la fois chez IBA et chez nos clients. Et puisqu'on n'a pas eu le choix, on a commencé à l'utiliser, avec pas mal de succès aussi. Donc voilà, après, je reste inquiet, moi, par rapport à notamment la Chine, hein, qui reste fermée pour le moment. Enfin, vous pouvez y aller, mais vous devez faire 4 semaines de quarantaine, donc autant dire que personne n'y va. Donc ça reste très difficile, et c'est un marché très important pour IBA. Donc là aussi, à garder en tête, à réfléchir aussi éventuellement comment continuer à opérer en Chine sans peut-être y aller. On a signé un gros partenariat avec une grande société chinoise qui, de ce point de vue-là, peut nous aider aussi à continuer à être très présent en Chine sans devoir y voyager. Donc voilà, l'un dans l'autre, plutôt positif, plutôt serein sur la façon dont on a traversé la crise, mais attentif sur l'avenir.
Si vous deviez dire en quelques mots ce qui constitue, ce qui compose l'ancrage belge d'IBA, que diriez-vous ?
Alors l'ancrage belge d'IBA, en fait, est vraiment né d'un événement fin des années 90, où IBA était sujet, IBA n'était pas en bourse à l'époque, mais IBA était sujet à une OPA hostile d'un concurrent canadien. Et à l'époque, le management et tous les employés de l'entreprise, à l'époque nous étions environ 70, ont décidé de refuser cette OPA hostile. Et nous nous sommes constitués en société et nous avons proposé une alternative, donc ce qu'on appelle un management buyout. Donc le management de l'époque et les employés se sont mis ensemble pour racheter l'entreprise avec un levier bancaire, bien sûr, ce qui explique en fait l'IPO en 98 pour désendetter la société qui à l'époque s'appelait Belgian Anchorage, constituée tous ses employés, qui existe encore aujourd'hui, qui détient toujours 20% du capital d'IBA et un peu plus de 30% des droits de vote, avec la ferme intention d'offrir à IBA la possibilité de développer une stratégie très long terme, sans être sujette à des OPA hostiles, avec les hauts et les bas qui constituent la vie normale d'une entreprise.
IBA, c'est aujourd'hui donc un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros et, vous l'avez dit, 800 emplois à Louvain-la-Neuve pour un total de 1500 à travers le monde. Et paradoxalement, malgré cet ancrage dans notre pays, on a l'impression que les IBA ou les technologies d'IBA peinent à s'imposer chez nous. D'abord, est-ce exact ? Et puis, qu'est-ce qui explique cela ?
Alors, on est bien sûr sur des marchés de niche, hein, mais au niveau de la base installée, donc on a des systèmes du portefeuille de produits IBA. Il y a un système de protonthérapie au Geistesberg qui traite des patients tous les jours. Il y en a un autre qui est en construction à Charleroi. On a des accélérateurs pour la médecine nucléaire à travers le pays. Donc, en termes de parts de marché, en fait, on a au moins autant de parts de marché en Belgique.
Toute proportion gardée.
Oui, toute proportion gardée.
Si un marché n'est pas l'autre.
Voilà, on est leader en Belgique, assez clairement. Maintenant, effectivement, la niche, et en particulier en protonthérapie, est assez moins dynamique que dans d'autres pays pour des raisons, politiques ou globalement de politique des soins de santé que je ne commande pas vraiment. On a des pays beaucoup plus dynamiques en termes de volonté d'incorporer la protonthérapie dans les traitements en oncologie. La Belgique est venue très tard. Après, on sait que la Belgique est un pays compliqué, donc ce qui a libéré en fait la possibilité de faire un système de protonthérapie en Belgique, c'est ce fameux système compact, le Proteus One, dont je parlais plus tôt, hein, qui permet en fait d'avoir de justifier deux projets en Belgique. Ça a débloqué la situation et nous en sommes ravis.
C'est Louvain dont vous avez parlé.
Voilà, Leuven et Charleroi sont équipés du système Proteus One. Mais comme je disais, effectivement, par rapport à la Hollande, qui a déjà aujourd'hui 8 salles de protonthérapie, on voit que proportionnellement, la Belgique est relativement sous-équipée. Voilà, nous pensons que ça va changer avec le succès que connaîtra sans aucun doute Leuven et Charleroi, mais surtout aussi par rapport à, au fait que ça change la vie des patients. On peut dire que peu de patients belges sont traités en protonthérapie. C'est, à mon sens, uniquement dû au manque de disponibilité et à la difficulté de se faire traiter à l'étranger. On parle de traitements qui durent plus de 30 jours, etc., qui nécessitent quelque chose d'assez disruptif dans sa vie familiale. Ça nécessite en général d'aller se relocaliser près du centre de traitement. Donc on le voit bien, s'il n'y a pas de centre de traitement à proximité des patients, bien peu de patients choisiront de se faire traiter en protonthérapie. Donc voilà, moi je suis très content qu'on puisse compter sur le Geistesberg comme pionnier en Belgique et ensuite Charleroi. Je suis relativement convaincu que ces centres auront très vite de l'impact sur les patients en Belgique et traiteront très vite beaucoup de patients en Belgique.
IBA mentionne dans ses statuts que ses objectifs incluent le fait d'avoir, dans le cadre de l'exercice de ses activités, un impact positif significatif sur toutes ses parties prenantes. Donc ce sont les patients, les actionnaires, les employés, les clients, la société et la planète. Comment fait-on quand on est une société cotée et suivie de près par les marchés pour veiller à un équilibre justement entre ces parties prenantes?
Je pense qu'aujourd'hui, sans aucun doute, on n'est plus dans un monde de « ou ». C'est-à-dire « ou profitable », « ou bon pour l'environnement », « ou bon pour ses employés ». On est définitivement dans un monde de « et ». Je pense que l'histoire capitalistique est renforcée par une histoire, je dirais, d'équilibre des parties prenantes dans le monde d'aujourd'hui, déjà dans le monde d'hier, hein, jusqu'à un certain point, mais encore plus dans le monde d'aujourd'hui. Souvent, je l'explique en disant, d'abord, c'est la bonne chose à faire, et d'un point de vue éthique. Je pense que nous faisons face collectivement, en tant qu'humanité, à des défis phénoménaux. Je suis extrêmement convaincu du rôle positif que peuvent avoir les entreprises dans la résolution de ces difficultés. Et donc, d'un point de vue éthique, je ne me pose même pas la question. Mais d'un point de vue, je dirais, purement business, se soucier de ces dimensions-là, c'est mieux gérer ses risques. C'est les anticiper les changements législatifs qui viendront. Hein, la taxe carbone, je pense que c'est juste une question de temps. Bien, si vous avez déjà intégré ça dans votre mode de gestion, vous en sortirez grandi le jour où il y aura cette taxe-là. On parle d'une guerre des talents. Hein, on sait que les fameuses générations Y ou même les fameuses générations Z auront d'autres aspirations en termes de carrière. Je pense que c'est de nature à attirer ce genre de talent. Alors IBA a toujours bénéficié d'une raison d'être fantastique. Hein. On protège, on améliore et on sauve des vies. Mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui et certainement dans le monde de demain, ça ne sera plus suffisant. Il faudra le faire en créant de la valeur sociétale ou en maximisant la création de valeur sociétale et en minimisant l'impact sur l'environnement. Donc je pense que ce genre de politique extrêmement proactive, et c'est un choix que nous avons fait, qui est un choix quasi ADN hein, chez IBA. On se souviendra que quand Yves a créé IBA fin des années 80, il est revenu consciemment en Wallonie pour le créer avec l'objectif de créer des emplois de qualité. Donc, quelque part, ça fait partie de notre histoire d'avoir cet engagement sociétal fort. Et pour moi, ça fait partie de ce que nos actionnaires attendent de nous. Donc, je ne vois pas une contradiction. Au contraire, je vois une synergie complète entre devenir une société performante d'un point de vue financier, devenir une société performante d'un point de vue environnemental et devenir une société performante d'un point de vue sociétal.
C'est, Olivier Legrain, quelque chose qui revient assez souvent dans vos propos, la maximalisation du profit à tout prix est un concept complètement dépassé, c'est un concept du vieux temps. On a aussi l'impression que le long terme s'impose aujourd'hui. C'est une chose sur laquelle vous insistez, mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé?
D'abord, je pense que plus personne ne peut nier, comme je le disais, qu'on a, d'un point de vue de l'humanité, des problèmes importants à régler. Hein. Je pense plus personne ne nie qu'on a un problème de changement climatique, plus personne ne nie qu'on a un problème de biodiversité. Je pense que beaucoup d'entre nous en étaient conscients. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait un peu partie du discours général. Et donc, je pense que l'air du temps en est là. Et certains d'entre nous sentent un certain sens de l'urgence. Je pense que c'est peut-être ça qui a changé. Moi, j'ai toujours été très conscient de ces problématiques. Par intérêt personnel, je pense qu'il y a un vrai sens de l'urgence maintenant d'avancer beaucoup plus vite que ce qu'on a pu faire jusque maintenant. Je reste positif, je pense qu'on peut le faire, mais il s'agit de le faire et je pense que des entreprises comme IBA, qui est certes une petite entreprise, mais avec beaucoup de visibilité dans sa communauté, doit donner l'exemple, comme beaucoup d'autres le font. Hein. Donc de nouveau, je pense que je ne critique pas le modèle économique. Je pense que beaucoup d'entreprises, peut-être de manière moins visible, le font. Mais je pense aussi que certaines ont exagéré et que ce temps-là est terminé, que des choses doivent disparaître, qu'on ne va pas, rebâtir une économie ou une prospérité pour l'humanité sur des bases qui maximisent à très court terme le profit. Donc on doit passer à autre chose, comme certains étaient déjà passés à autre chose, mais on doit l'assumer et surtout faire en sorte que ceux qui ne suivent pas, bien, ça soit de plus en plus difficile pour elles. Et de nouveau, je pense que l'environnement le fera. Les investisseurs n'investiront plus dans des sociétés parce que le risque sera trop grand, ou elles auront plus de mal à se financer, parce que ça sera beaucoup plus cher, de nouveau pour une question de risque, ou elles n'arriveront plus à recruter les talents de demain, et on sait qu'il y a une crise des talents un peu partout dans le monde, en fait. Donc voilà, pour moi, j'en suis convaincu, je pense que c'est aussi une énergie très positive, et c'est quelque chose qui améliore, en fait, votre proposition de valeur.
En décembre 2016, en reconnaissance de sa responsabilité sociétale, IBA a vu son action incluse dans un fonds de la banque durable Triodos, un fonds qui investit justement dans des PME qui, de par le monde, s'engagent dans des activités innovantes dans le domaine du développement durable. Était-ce une surprise pour vous ou est-ce que vous êtes intervenu à un moment donné dans le processus d'éligibilité ?
Alors, je pense que mes équipes ont eu un dialogue avec Triodos, qui a posé des questions, en fait, et validé un certain nombre de choses qu'on peut trouver dans les rapports annuels. Est-ce que c'était une surprise pour nous ? Non. Pour moi, c'est un but recherché. C'est-à-dire qu'en affichant une certaine politique, on veut aussi attirer un certain type d'investisseurs et je suis très content que Triodos investisse dans IBA parce que nous voulons des investisseurs comme Triodos, c'est-à-dire des investisseurs conscients avec une vision long terme et qui sont attentifs et nous aident en fait à évoluer sur d'autres dimensions que purement économiques.
À quel niveau se situent vos investissements en matière de recherche et développement ?
Alors IBA dépense à peu près 10% de son chiffre d'affaires en recherche et développement, donc un peu plus de 30 millions d'euros tous les ans, qui est ciblé sur les 4 business units. Hein. Donc on a vraiment à peu près le même niveau d'investissement en pourcentage du chiffre d'affaires pour les 4 business units. Il y a énormément d'opportunités, comme je le disais. On a cette possibilité de continuer à rendre la modalité de protonthérapie beaucoup plus relevante d'un point de vue clinique en introduisant de nouvelles dimensions techniques à la machine. On a, dans le passé, transformé en fait cette machine en une imprimante 3D. On parvient à peindre la tumeur en 3 dimensions à l'intérieur du corps. On a d'autres idées pour libérer encore plus tout le potentiel de la protonthérapie. On continue à investir dans ce cadre-là. Mais on a aussi la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de révolutionner la stérilisation des medical devices dans notre division industrielle. Donc, on continue à travailler là-dessus. Et de nouveau, principalement sur la partie accélérateur, mais aussi sur tout ce qui tourne autour. IBA, aujourd'hui, on ne vend plus d'accélérateurs, on vend des solutions, que ce soit des solutions en médecine nucléaire, des solutions en stérilisation ou des solutions dans le traitement du cancer. Donc, ça nécessite de l'investissement en recherche et développement.
Vous avez parlé de la guerre des talents. Quels sont les profils que vous recrutez ? Est-ce qu'ils sont très diversifiés ? Ou est-ce que ce sont plutôt des profils de niche aussi ?
Alors, on est très ingénieur chez IBA, physicien, ingénieur, physicien clinique, mais aussi des techniciens. Hein. Je pense que il y a des gens qui ont absolument de l'or dans les mains hein, et qui parviennent à faire des choses fantastiques en mécanique ou en électromécanique. Tout ça sont des profils qu'on recherche. C'est ça qui fait la force d'IBA. Je le disais tout à l'heure, le cœur d'IBA, c'est l'innovation. Et derrière l'innovation, il y a des hommes. Bien sûr, il y a eu Yves. Et Yves est toujours là pour nous montrer un certain chemin technologique. Mais derrière Yves, il y a énormément de jeunes et moins jeunes talents qui font vraiment la différence. Et c'est surtout dans des domaines techniques. Après, il est vrai qu'on est aussi dans un positionnement marketing et c'est peut-être là qu'il y a la plus grande possibilité de développement chez IBA, à savoir on fait des solutions technologiques et techniques fantastiques. On n'est probablement pas les meilleurs pour les vendre et donc là aussi on recherche des talents qui nous permettent de raconter l'histoire avec honnêteté, mais quand même l'histoire fantastique des produits d'IBA pour pouvoir, comme je le disais, être compétitif par rapport à ces grandes entreprises qui, elles, sont souvent des machines de guerre d'un point de vue marketing. Donc, principalement ingénieurs, techniciens, des métiers de la technologie, software aussi, hein, évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est évident. Nos produits sont de plus en plus autour du software. On parle de solutions, je le disais tout à l'heure. Cela comporte une composante software très importante. Et puis, comme je le disais, des talents plus vente et marketing.
Vous nous en dites un petit peu plus sur ce label Bicorp qui vous a été décerné, c'est en juin dernier ?
Voilà, on est tombé il y a à peu près 5 ans sur ce framework qui a été en fait lancé par des Américains, mais qui est en fait une sorte de scan de votre entreprise sous toutes ses dimensions, qu'elle soit sa gouvernance, vos politiques vis-à-vis de vos employés, vos politiques environnementales, la façon dont vos produits ont un impact. Et on s'est dit, en voyant ce framework, on avait depuis longtemps déjà exprimé, même peut-être depuis le début d'IBA, cette volonté de créer de la valeur pour nos parties prenantes. Et on avait parfois un peu de mal à l'activer d'un point de vue opérationnel. Et quand on est tombé sur ce framework, on a regretté de ne pas l'avoir inventé nous-mêmes, parce qu'on s'est dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ce qu'on cherche. Et ça vous permet vraiment c'est à peu près 260 questions auxquelles vous devez répondre et qui vous donne un peu un état de la situation sous toutes ses dimensions en vous disant voilà là vous performez plutôt au-dessus de la moyenne et sur telle dimension vous performez plutôt en dessous de la moyenne et c'est ça toute la valeur de cette certification. C'est pas tant une étape finale que le début d'une aventure qui vous dit où vous êtes très performant par rapport aux autres et où vous sous-performez de manière importante, ce qui vous donne en fait tout un espace d'amélioration. Et finalement, comme on est à l'aise avec les chiffres, on a ce référentiel qui est en ce qui nous concerne les IFRS, eh bien ça vous donne un référentiel sur toutes ces dimensions qui vous permettent en fait de décrire des objectifs, des priorités pour continuer à avancer et améliorer vos scores. Chez IBA par exemple, sans surprise, on a vu qu'on surperformait quelque part la communauté sur tout ce qui est impact de notre business model et sur la gouvernance. On est plutôt bon aussi d'un point de vue force de travail. Par contre, on a vu qu'on sous-performait relativement grossièrement sur la dimension environnementale. Et effectivement, on a finalement avec le temps peu c'est pas tant qu'on fait peu de choses, mais qu'on a du mal à les documenter ou à les justifier, ou qu'on les fait seulement dans des parties du groupe. Or ici, ce référentiel regarde au groupe en entier. Il dit, mais si vous mesurez votre impact carbone à Louvain-la-Neuve, très bien, et vous avez une politique pour la réduire, mais vous ne la mesurez pas dans votre bureau en Allemagne, et donc vous avez zéro point. Et donc, ça vous permet comme ça d'identifier une série de choses que vous pouvez faire, certaines assez vite, certaines de façon beaucoup plus profonde, pour vous améliorer sur ces dimensions-là, ce qui vous rend, une fois de plus performant sur les parties prenantes, ce qui est notre objectif.
Olivier Legrain, un tout grand merci.
Merci à vous.
C'est déjà la fin de ce podcast. Notez dès à présent dans votre agenda les prochains podcasts Let's Talk de la Fédération des entreprises de Belgique. Rejoignez-nous chaque dernier jeudi du mois et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet fb.be.